Dime que son los secretos de tu
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélian Var, réalisée par Clotilde Bivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Pierre Mine. Aujourd'hui, nous recevons Mireille Hadas-Lebel pour parler du Messie. Mireille Hadas-Lebel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour Frédéric. Bonjour Mireille Hadas-Lebel. Vous êtes ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée de grammaire, docteur d'État en histoire ancienne, professeure émérite de la Sorbonne en histoire des religions avec une spécialisation dans l'histoire du judaïsme. Et vous avez publié de nombreux ouvrages qui sont à la charnière de vos deux spécialités, c'est-à-dire la philologie et l'histoire. Vos ouvrages montrent d'ailleurs de manière très évidente l'importance de cette philologie, de la connaissance de la langue
des textes.
Des textes, absolument, pour reconstituer cette histoire en fait, du judaïsme sur laquelle vous vous spécialisez. Parce que vous êtes aussi spécialiste à la fois de l'hébreu et du grec, et vous allez nous dire à quel point, évidemment, les deux sont importants dans cette histoire du Messie que vous venez de publier chez Albin Michel, et qui reprend, en fait, depuis les textes les plus anciens, le mot même de Messie, et vous expliquez comment ce mot a évolué, comment l'histoire lui a donné des sens nouveaux selon le contexte politique, social, spirituel et religieux. Et aussi, et comment tout ça a évolué. Et vous allez aujourd'hui nous refaire avec nous, nous redonner cette histoire du Messie pour qu'on comprenne mieux ce que ce terme recouvre et ce qu'il signifie encore aujourd'hui.
Merci de cette présentation. Effectivement, vous rappelez que j'ai une formation philologique à la base, donc elle m'impose de partir des textes et même de partir des mots. Or, donc, il est très facile de savoir combien de fois dans la Bible apparaît le mot « Mashiach » qui a donné le mot « Messie ». Vous savez peut-être qu'il existe un instrument très précieux qui s'appelle une concordance biblique. Quand vous voulez savoir où le mot se trouve, dans quel verset, vous ouvrez la concordance. Il faut évidemment savoir l'hébreu pour la lire, mais il en a existé des traductions grecques et latines. Enfin, moi, je recommanderais plutôt de partir de l'hébreu, et vous trouvez à Mashiach 39 occurrences, pas davantage, dans la Bible hébraïque. Et dans la Bible hébraïque, vous vous attendez à voir la majorité de ces occurrences chez les prophètes, et puis pas du tout. Vous vous apercevez que Mashiach est tout simplement un adjectif qui est accolé tantôt au mot prêtre, ha kohen ha Mashiach, tantôt au mot roi, ha melech ha Mashiach. Pourquoi ? Parce que il était d'usage dans l'Antiquité pour consacrer un personnage de l'enduire d'une huile qui le consacrait. Et on a connu ça avec le sacre des rois à Reims, avec le sacre de.
C'est l'étymologie du mot Messie, c'est celui qui est oint par l'huile.
Celui qui est oint. Voilà. Donc, il est oint. Pourquoi ? Parce qu'il est appelé à une mission particulière, mais c'est une mission qui est toute terrestre, qui n'a absolument rien à voir avec le personnage de la fin des temps qu'évoque pour nous le mot Messie. Et d'ailleurs, je dois ajouter qu'en hébreu, il n'y a pas de M majuscule. Donc, le Messie n'existe pas. C'est un adjectif. Et puis, ensuite, donc, le roi Messie, le roi ouin, il faut justement les traductions, il faut s'en méfier parce que certains traduisent Mashiach par ouin, d'autres traduisent par Messie, et elle nous entraîne déjà dans un autre domaine que celui de la plus haute antiquité. Or, dans la plus haute antiquité, les rois, même s'ils ne sont pas des rois hébreux, sont ouin. C'est un usage du Proche-Orient antique. Et nous avons la surprise lorsque nous rencontrons enfin un Messie nommé chez les prophètes. Il s'agit d'Isaïe, chapitre 45, verset 1. Il s'agit de Cyrus, roi de Perse, qui est investi d'une mission particulière, qui est celle de libérer les Judéens ou Juifs, puisque c'est la même chose, qui ont été déportés en Babylonie, une génération avant, par le roi Nabucodonosor. Donc voilà, Cyrus est loin du Seigneur.
Alors quelle est la différence entre ce roi loin qu'on attend et puis les autres rois qui ont gouverné Israël ?
Alors, tous les rois devaient être loin, même si la Bible ne mentionne pas à propos de chaque roi qu'il l'était. Mais le problème, c'est l'attente. Parce que lorsqu'un roi était intronisé, donc il recevait cette onction. Comment se crée l'attente ? Alors, il y a plusieurs étapes dans cette attente. D'abord, vous savez qu'il y a une grande coupure dans l'histoire du royaume de Juda qui se crée après le schisme qui suit la mort de Salomon. Bon, je ne veux pas raconter trop vite toute cette histoire qui est en principe connue. Donc, Nabucodonosor, roi de Babylone, conquiert la région et déporte l'élite judéenne à Babylone et fait cesser la royauté. Et pendant des années, ceux qui sont déportés en Babylonie et dont la voix s'exprime par celle du prophète Ézéchiel ou celle déjà peut-être du second Isaïe ou dans des psaumes comme « Sur les rives de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion », ceux-là attendent le retour, attendent la restauration et le miracle se produit puisque Cyrus, roi de Perse, conquiert Babylone et il a pour principe de respecter les religions de ses sujets. Je dirais, ce n'est peut-être pas la tolérance au sens où on l'entend de nos jours, mais il se dit qu'il ne faut pas dresser contre lui des divinités d'autres peuples. Donc, les Judéens sont autorisés à rentrer à Jérusalem et à reconstruire le temple. Tous ne rentrent pas d'ailleurs, mais ils attendent aussi la restauration de la royauté. Et cette restauration ne vient pas. Et ce qu'on attendait à l'époque, c'était un rejeton de David ou un germe de David, comme cela est dit chez certains prophètes. Alors, l'attente est liée à la descendance de David. Ça, c'est une première étape.
Attendez, juste avant qu'on continue là-dessus, oui. Pour qu'on comprenne bien. Donc, à la fois, Cyrus est consacré et dit comme le Messie, parce qu'il libère les Juifs. Donc ça, c'est un fait historique, effectivement, tout à fait, c'est certain. Mais en même temps, on attend un autre Messie, alors. Donc, non, ça veut dire
on attend, je ne dirais pas Messie à cette époque. D'ailleurs, les prophètes qui l'annoncent n'attendent pas un Machiach, ils attendent un roi. Germe de David, c'est-à-dire un descendant de David qui correspond à la lignée légitime et qui s'assiérait sur le trône de l'ancien royaume de Juda. Or, les Perses veulent bien tolérer la restauration du temple et de la religion, mais pas la royauté. Et là, nous sommes pendant quelques siècles dans une province perse autour de Jérusalem, avec comme représentant de la nation le grand prêtre qui a l'autorité suprême. En fait, il est l'interlocuteur des gouverneurs perses, mais il n'y a pas de pouvoir temporel qui est restauré. Et là, c'est une attente qui est déçue et qui se perd. Et nous sommes au 5e siècle lorsqu'elle se perd, et après les siècles passent, il y a de nouveaux textes de la Bible qui sont écrits, ou qui ne sont pas de la Bible à l'origine, mais qui en finissent par entrer dans le canon biblique. Et dans ces textes tardifs qui se trouvent essentiellement dans ce qu'on appelle en hébreu les écrits et qu'on a rendu par un mot grec un peu trop compliqué les hagiographes, qui ne sont pas plus saints que d'autres livres, au contraire, même plutôt moins, eh bien, il n'y a pas la moindre mention d'un Messie.
Vous avez dit, en fait, Cyrus est représenté comme juste oint.
Oui,
ça veut dire qu'il est roi. Mais en même temps, on ne donne pas cet attribut à tous les rois, si j'ai bien compris. Donc, il y a quand même quelque chose de très particulier. Qu'est-ce qu'il y a dans cette onction qui fait que Cyrus a droit au nom de, au titre de Messie ou de Ouin, et que Nabucodonosor, par exemple, n'a pas droit à ce titre.
Il n'y a pas droit parce que c'est un conquérant hostile et que Cyrus est présenté comme investi d'une mission et que celui qui écrit le texte concernant Cyrus, qu'on appelle le deuxième Isaïe chez les érudits, eh bien, est un contemporain de Cyrus. Il marque sa reconnaissance de cette façon.
Voilà, mais la question que je me posais, c'est est-ce que avant que Cyrus soit qualifié de Messie, est-ce que l'attente messianique existait déjà ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait déjà le mot Messie qui apparaissait dans le texte antérieur à celui du second Isaïe ?
Le mot Messie n'intervient... D'abord, on ne sait pas dater les textes bibliques, et le mot Messie n'intervenait que pour désigner le prêtre ou le roi. Là où le mot Messie est le plus fréquent... Vous serez étonné de le voir, c'est dans le livre de Samuel où David, qui est poursuivi par le roi précédent Saül, et qui voit le roi à sa merci à un certain moment, se pose la question « Porterai-je la main sur le Messie de Dieu ?» Hein, sur loin de Dieu. Alors, je ne devrais pas dire le Messie, sur loin de Dieu. Et ça revient, cette formule revient.
Donc, il y a deux sens du mot Messie, en fait, pour qu'on comprenne
bien. Le sens originel, c'est simplement celui qui a été consacré.
Voilà. Consacré.
Voilà, à l'époque
mais
où
c'est
nous
autre
sommes,
chose que l'attente messianique.
Voilà, et d'abord, l'attente messianique est liée aussi à l'idée de la fin des temps. Et tout le problème se pose de savoir si les prophètes ont véritablement parlé de la fin des temps. Parce que on traduit une expression hébraïque qui est « be'acharit hayamim », qui peut signifier aussi bien la suite des temps. Et lorsque Isaïe, notamment, parce que c'est lui qui a écrit les plus beaux textes, nous annonce une ère de paix, de justice, de bonheur pour l'humanité, où
le loup et l'agneau
cohabiteront, bien sûr, et où il n'y aura plus d'armes. On ne pratiquera plus l'art de la guerre, on transformera les épées en faucilles.
Ce qu'on appelle les temps messianiques.
On appelle ça les temps messianiques, mais il n'y a pas de messie. C'est ce que je veux montrer dans le texte.
Oui, c'est-à-dire
est-ce qu'on a le droit d'appeler messianique un passage qui vous annonce un bonheur universel, mais où il n'y a pas la moindre figure d'un personnage appelé le messie? Alors c'est pour ça que on a du mal à s'y retrouver, parce que justement, on confond les termes et on appelle messianique un petit peu trop tôt des textes où le Messie n'apparaît pas. Voilà. Et où on n'est pas du tout sûr qu'on annonce la fin des temps. D'ailleurs, la fin des temps...
En tout cas, on annonce une période particulière.
Une période...
Peut-être à la fin des temps ou pas, c'est pas dit.
Parce qu'il y a un optimisme.
Une sorte
les
de paradis
choses
terrestre.
Vont s'arranger. On va revenir à l'âge d'or. Mais il n'y a pas. Et la fin des temps, ça suppose aussi qu'il va y avoir une sorte de fin du monde, un cataclysme. Ça, l'idée va intervenir petit à petit. Mais il faut se rappeler la promesse faite à Noé, sur laquelle il n'y aurait plus de déluge qui détruirait le monde. Alors, l'idée d'un cataclysme final, elle s'introduit par le prophète Ézéchiel.
On va en parler, mais avant, je voudrais qu'on reste sur l'idée du paradis terrestre, c'est-à-dire d'une terre où tout est réconcilié, ce texte magnifique d'Isaïe. Est-ce que cette idée est associée à l'idée d'un roi qui régnerait sur terre et qui serait une sorte de roi universel, c'est-à-dire qu'il y a une royauté universelle ou
chez
pas ?
Chez Isaïe, non.
Non.
On dit simplement que le mal disparaîtra, que la douleur disparaîtra, le deuil, Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Il y a des passages absolument magnifiques, mais ce n'est pas lié à un Messie.
Je dis ça parce que Marcel Gauchet, dans son livre « Le désenchantement du monde », que vous avez sûrement lu, fait toute une interprétation très intéressante de l'attente messianique dans le judaïsme, en disant au fond, le judaïsme a été confronté avec l'exil, etc., à une contradiction interne. À la fois, il se considère comme le peuple élu, choisi par le Dieu suprême, le Dieu unique, et en même temps, il est confronté à un désastre politique permanent, puisqu'il n'a plus de royauté, il est déporté, etc. Et du coup, il va tenter de résoudre cette contradiction entre ce qui devrait être son universalisme, compte tenu qu'il est lié au Dieu unique, et le fait qu'il reste un petit peuple particulier qui n'a aucune importance politique, avec l'invention de la figure messianique comme un roi universel qui régnerait à la fois sur Israël, mais aussi sur le monde entier.
Oui, mais moi, je parlerais plutôt de l'invention vision de la figure divine universelle. Je trouve que j'ai écrit un article à ce sujet sur le monothéisme. Parce que comment voulez-vous qu'un petit peuple qui vit dans ces montagnes ait une vision absolument universelle de toute l'humanité ? Bon, il arrive déjà à une vision assez abstraite de la divinité, et c'est peut-être une divinité nationale, locale, à l'origine, où on est persuadé que chacun, chaque peuple de la région, que son Dieu vaut mieux que celui de l'autre. Mais effectivement, lorsqu'il y a des déboires politiques, et quand je dis déboires, c'est un mot faible, on est confronté à une question fondamentale. Et en exil, c'est l'élite intellectuelle qui part en exil. Et en exil, on découvre l'idolâtrie sous des formes grandioses. Ces défilés autour de tous les dieux, Marduk et autres, de Babylone. Et c'est probablement là que le psaume 115 est composé. Qu'est-ce que c'est que ces idoles ? Elles ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des jambes et ne peuvent pas marcher. On croit qu'elles vont vous sauver, mais elles ne vous sauveront pas. Et donc l'idée d'un Dieu universel secret, il n'y a pas de conflit entre le Dieu d'Israël et le Dieu des nations. Il y a simplement un Dieu universel qui ne peut pas être représenté, mais qui a puni momentanément un peuple qui ne s'est pas montré fidèle, mais qui est prêt à lui accorder le pardon. Et effectivement, le pardon est annoncé par les prophètes et il intervient avec le retour d'exil dont Cyrus est l'instrument. Donc vous voyez, moi je dirais c'est beaucoup plus le monothéisme, le vrai monothéisme universaliste du deuxième et du troisième Isaïe qui naît à ce moment-là que le messianisme.
Oui, et alors justement, alors, je c'est pas tout à fait la même période, mais ça m'a beaucoup intéressé. Vous citez un texte qui s'appelle les psaumes de Salomon, mais visiblement c'est une... C'est évidemment un apocryphe, mais je voudrais citer ce texte, quelques extraits de ce texte que vous citez, parce que justement, en fait, il reprend ce mouvement dont vous venez de parler, c'est-à-dire que finalement, le messianisme se constitue sur un constat aussi d'échec, oui. Presque une culpabilité, l'idée qu'on a tout perdu et que quelque chose, comme Dieu a fait la promesse que quelque chose adviendrait, alors on va ressaisir ce désespoir momentané pour le faire habiter d'une espérance qui est quand même une des grandes, peut-être un des grands attributs de la question du messianisme. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'on voit que ça part surtout de la destruction. Il ne reste plus qu'une seule chose, c'est d'espérer dans le Messie. Et là, le terme apparaît de manière extrêmement claire, comme, en tout cas dans votre traduction.
Ce texte est de quelle époque ?
Ah, oui, alors justement, vous avez raison de poser la question, parce que nous sommes en train de franchir les textes au grand galop. Je disais que l'idée du Messie, enfin d'un roi... et rester en repos pendant des siècles, on ne voyait pas à l'horizon. Il y a eu la domination perse, et puis il y a eu la domination grecque. Et puis, à l'occasion de la révolte contre le roi grec de Syrie, il y a une dynastie judéenne qui a émergé. Mais cette dynastie n'a pas donné satisfaction aux plus avisés, aux plus lettrés des Judéens, et a créé une opposition. Et l'opposition à cette dynastie a dû se calmer un peu lorsque Pompée a pris Jérusalem à l'issue d'une querelle dynastique. Mais ensuite, on a vu qu'on avait amené des étrangers dans la région, qui prenait le pouvoir, que ces étrangers mettaient en place un homme à eux, qui était Hérode, le roi Hérode. Hérode a massacré toute l'ancienne famille royale. On ne compte plus ses cruautés, de sorte qu'il est devenu ce personnage légendaire du massacre des innocents. Et donc, à ce moment-là, on est en plein désarroi. C'est-à-dire qu'une royauté s'est reconstituée, mais pas du tout celle qu'on attendait. Et on relit les textes. On relit les textes, on voit que le prophète Nathan avait promis à David que sa dynastie régnerait à jamais. où sont les descendants de David? On ne les connaît pas. Ils ont disparu. Les rois qui sont arrivés ne sont pas du tout à l'image de ce que certains prophètes annonçaient concernant des rois, parce que il y avait des prophéties concernant un roi sans utilisation du mot Messie. Voici ton roi vient humble, monté sur un âne dans Zacharie, mais aussi conseiller merveilleux, roi juste chez Isaïe, car on attendait toujours un roi soit digne, oui, de sa fonction. Et en fait, si vous faites le compte de tous les rois qui suivent Salomon, on en trouve difficilement deux pour sauver l'image royale. C'est-à-dire qu'on n'a aucun optimisme sur l'utilisation du titre royal par les hommes.
Et donc ce texte est écrit, à
mon avis, je ne suis pas la seule, et il y a des éléments de datation qui le prouvent. Il est écrit à la fin du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Et il exprime un profond désarroi et l'attente du fils de David, l'attente du Messie. Alors,
c'est intéressant parce que c'est
évidemment, ça fait le lien.
Ça fait le lien avec...
J'ose dire Messie maintenant parce que je pense qu'avec le temps, le mot Messie est devenu familier, non tant par tous les textes que je viens de citer, mais par les psaumes. Les psaumes canoniques eux-mêmes, qui exprimaient à l'origine l'attente d'un roi de la lignée davidique, mais il reste le mot Mashiach dans un contexte poétique, et donc je pense que ça rejoint cette attente, et que le Messie prend une dimension, je dirais, supra-historique qu'il n'avait peut-être pas à l'origine.
Ce que tu ne leur avais pas promis, ils s'en sont emparés de force.
Oui.
Ils n'ont pas rendu gloire à ton nom vénérable. Leur orgueil les a poussés à fonder une royauté. Ils ont dépouillé le trône de David, impudents imposteurs. Mais toi, ô Dieu, tu les as renversés. Tu as ôté de la terre leur descendance en suscitant contre eux un étranger à notre race. Selon leur péché, tu les as rétribués, ô Dieu, et leur sort fut celui qu'ils avaient mérité. Dieu ne leur a pas fait grâce, il a recherché leurs descendants et n'en a pas laissé échapper un seul. L'impie a dévasté notre pays qui n'a plus d'habitants. Il a massacré les jeunes, les vieux et leurs enfants ensemble. Dans son ardente colère, il les a exilés jusqu'au couchant avec les princes du pays pour qu'on s'en rie sans pitié. Son caractère d'étranger a poussé l'ennemi à s'enorgueillir. Son cœur était étranger à notre Dieu et tout ce qu'il a fait en Jérusalem est seulement conforme au rite des païens, adorant leur Dieu dans leur ville. Regarde, Seigneur, et suscite-leur un roi, fils de David, au moment où tu sais, ô Dieu, pour qu'il règne sur Israël, ton serviteur. C'est un roi juste que Dieu instruit et place à leur tête, point d'injustice durant ses jours parmi eux. Ils sont tous saints, et leur roi est le Messie Seigneur, que Dieu purifie et bénisse Israël, pour le jour de sa miséricorde, au jour prédestiné, où il suscitera son Messie. Heureux ceux qui viendront en ces jours-là, ils verront les bienfaits que le Seigneur accordera à la génération à venir, sous le sceptre éducateur du Messie du Seigneur.
Thank you.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous sommes en compagnie ce matin de Mireille Adas-Lebel pour parler du Messie à l'occasion de la sortie de son livre Une histoire du Messie aux éditions Albin Michel. Alors tout ce que nous venons de dire là à l'instant, juste avant la pause musicale, sur ce texte d'attente messianique, ce premier véritable texte d'attente messianique, dont vous nous dites qu'il a été écrit finalement quelques décennies avant l'arrivée de Jésus, nous amène une très bonne transition vers effectivement le Nouveau Testament et vers les textes chrétiens, puisqu'on sent bien lorsqu'on lit les évangiles qu'il y a une forte attente du Messie, ce qui se confirme par la lecture de ce texte, et que finalement Jésus est confronté à ça, puisque un certain nombre de gens qui le suivent se posent la question, est-ce que c'est le Messie, oui ou non?
Oui. Alors j'ai intitulé ce chapitre sur Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ?» Parce que effectivement, on attend quelqu'un, on attend quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Si on lit le Nouveau Testament de près, et je dois dire que je me suis limitée aux trois évangiles synoptiques, car j'estime que Jean échappe à cette recherche, il est peut-être trop mystique pour notre propos. Moi, je voulais simplement essayer d'élucider ce que représentait l'attente de cette génération. Et je vois qu'on prend Jésus pour un prophète. Lui-même, d'ailleurs, parle de lui-même comme d'un prophète. Nul n'est prophète en son pays. C'est à Jérusalem qu'il doit aller mourir, car Jérusalem tue ses prophètes. Bien, mais pour d'autres, il est le fils de David. Comment l'acclame-t-on dans la foule? On l'acclame.
Hosanna.
Hosanna.
Surtout Hosanna quand il rentre signifie, avec l'âne.
Ça ne signifie pas gloire à Dieu, ça signifie sauve-nous. Hosanna.
Et aussi de l'importance de la généalogie de Jésus. Il faut toujours qu'il remonte à David. On le comprend très bien quand on parle du germe de David.
Ces textes sont sans doute écrits après cette période, mais une partie des évangélistes le rattache à David. Et on l'appelle fils de David, car fils de David est devenu un titre messianique. Et donc, on attend de lui quoi? Le salut. Alors, salut politique, salut spirituel, c'est difficile à savoir. Et en fait, lorsque vous lisez le début des Actes des Apôtres, vous voyez qu'il pose la question à Jésus lorsqu'il réapparaît, « Est-ce que tu vas rétablir pour nous le royaume d'Israël ?» Donc, c'est ça l'attente populaire. Et c'est ce que signifie « fils de David ». Et « fils de David » signifie aussi « roi ». Et Messie signifie aussi roi, mais ça a peut-être pris une petite dimension supplémentaire parce que Jésus se laisse appeler fils de David, mais lorsque Pierre l'appelle Messie,
et le Messie, le fils du Dieu vivant,
le fils du Dieu vivant, il dit c'est toi qui l'as dit. Il
et Pilate également d'ailleurs, tu es le roi des Juifs, et il lui dit c'est toi qui le dis.
Il dit tu es le roi des Juifs, c'est toi qui le dis. Mais je dirais que pour un Romain, il n'y a pas d'autre façon de traduire Messie ou fils de David que roi des Juifs. Essayer de traduire ça en latin, ça ne signifie rien pour eux.
Donc c'est une ambiguïté
assez
forte. Il reste dans les textes du Nouveau Testament, des évangiles, une forte ambiguïté.
Il y a une ambiguïté, mais il y a un texte dont nous n'avons pas parlé et qui est antérieur au psaume de Salomon que vous citiez tout à l'heure, où le mot « Messie » n'apparaît pas. Mais qui est un texte fondateur de l'idée messianique telle qu'elle va se développer dans le Nouveau Testament. Il y a le serviteur souffrant d'Isaïe, ça sera, mais il y a aussi, parlant des titres que Jésus se donne, alors cette fois, il y a le titre de fils de l'homme.
Oui.
Et ce titre de fils de l'homme apparaît au chapitre 7 du livre de Daniel. Le livre de Daniel n'est pas un livre aussi ancien qu'il y paraît, car il se donne un cadre babylonien, mais de la vie générale, c'est un texte qui a été rédigé à l'époque de la révolte des Maccabées, c'est-à-dire un peu avant l'instauration du royaume asmonéen, à un moment où les Juifs étaient persécutés par le roi grec de Syrie, Antiochus Épiphane. Et dans une vision qui apparaît à Daniel au chapitre 7, il voit passer en jugement sous forme de bête quatre grands empires qui ont dominé successivement le monde. Et il passe en jugement devant l'Ancien des Jours, qui est une forme anthropomorphique de Dieu, présenté comme un vieillard vêtu de blanc, et vient s'adjoindre à Dieu un personnage venu sur les nuées qui est comme un fils d'homme. Et après ce jugement, la puissance et la gloire seront données à ce fils d'homme qui représente un nouveau royaume à visage humain cette fois.
Donc c'est une figure messianique sans le dire.
Alors, est-ce que c'est une figure messianique sans le dire ? Bon, les interprétations historicisantes vous diront que cela donne confiance à ceux qui sont révoltés contre Antiochus Épiphane. Ils vaincront et ils rétabliront le royaume de Dieu. C'est une figure collective qui représente le peuple des saints du Très-Haut. C'est une interprétation, mais le temps passant et l'histoire ayant avancé, la figure reste comme elle est et elle nécessite des interprétations nouvelles. Et ce fils d'homme qui arrive sur les nuées, qui est éblouissant, a quelque chose qui impressionne et qui produit une impression durable qui se traduit aussi dans d'autres textes qu'on n'a pas cités, notamment dans le livre d'Enoch, dans une partie qui s'appelle les paraboles. Et le livre d'Enoch, alors vous allez dire...
C'est aussi un texte apocryphe.
Voilà, c'est un texte apocryphe, ça ne dira rien à beaucoup de gens, sauf à ceux qui suivent l'Église éthiopienne, parce que c'est un texte fondamental dans l'Église éthiopienne. C'est là qu'on nous l'a conservé en entier.
Oui, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai commis une faute chronologique, mais j'attendais quand même que vous parliez de cette expression de fils de l'homme, pour effectivement parler de ce texte que vous venez de présenter, mais que vous allez peut-être nous présenter plus avant. Parce qu'en effet, ce qui est très intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous nous donnez à lire des textes qu'on n'a pas du tout l'habitude de lire. Et
exactement.
Qui finalement font la transition, font
voilà,
le lien.
Exactement.
Parfois on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ce fils de l'homme ? Qu'est-ce que ça signifiait au temps de Jésus comme ça ? Et là, ce que vous citez du livre d'Enoch, rend la chose vraiment très claire. Si on pense que, évidemment, c'était dans la conscience juive de l'époque.
Bien sûr. Oui. Et de rappeler que Jésus, quand il se qualifie lui-même, il parle du fils de l'homme. Il dit « le fils de l'homme est venu pour ceci ou pour cela ». Et donc, c'est le qualificatif qu'il s'attribue. Il dit, comme vous le disiez, il ne dit pas « je suis le Messie », à part chez Jean.
Il parle de lui en disant « le fils d'homme ou le fils de l'homme hein. ». Ces passages d'Enoch ont été retrouvés à Qumran dans un original araméen, ce qui prouve bien que c'est un texte qui était lu, en tout cas dans certains cercles. Reste le problème du lectorat des livres aussi, hein, à cette époque. Mais il n'y a pas le passage des paraboles où on présente celui qui est appelé l'élu de justice, qui siège à côté de Dieu le Père, représenté comme dans le texte de Daniel que je citais, qui est présenté comme préexistant au monde et qui, après, est même appelé Enoch lui-même, ce qui est assez déconcertant. Alors, ce personnage d'Enoch, en vérité, est un personnage mystérieux qui est le septième homme après Adam, dont il est dit qu'il a été enlevé au ciel. Bon, donc il n'est jamais véritablement mort. C'est comme le prophète
comme
Élie qui n'est
voilà,
jamais véritablement
mort. Voilà, c'est les deux personnages qui ne sont pas morts.
Les deux personnages qui ne sont pas morts. Donc, ils ont des chances de revenir sur Terre. Et Enoch reçoit une révélation. Le livre d'Enoch est une apocalypse au sens véritable du terme apocalypse, c'est-à-dire que c'est une révélation sur la structure du monde et sur ses destinées. Là, quand je dis la structure du monde, c'est les sphères célestes, c'est les phénomènes météorologiques, c'est le cœur des anges, une idée qui n'existait pas tellement avant, mais qui s'est développée. Et donc, dans le livre d'Enoch, le personnage qui est un peu l'assesseur de Dieu dans le jugement, qui a l'air d'être une sorte de jugement dernier, eh bien, c'est l'élu de justice et il reçoit même le titre de Messie. Ouais.
À cette heure, ce fils d'homme fut appelé auprès du Seigneur des esprits et son nom fut prononcé en présence du principe des jours. Avant que soient créés le soleil et les signes, avant que les astres du ciel soient faits, son nom a été proclamé par devant le Seigneur des esprits. Il sera un bâton pour les justes, Il sera la lumière des nations. Il sera l'espoir de ceux qui souffrent dans leur cœur. Car devant lui, la sagesse coule comme de l'eau et la louange ne tarira pas, à tout jamais, car il est fort de tous les mystères de justice. La violence passera comme une ombre et n'aura plus de lieu où se tenir, car l'élu se tient devant le Seigneur des esprits. Sa gloire est éternelle, sa puissance est pour tous les âges. En lui réside l'esprit de sagesse, l'esprit d'instruction, l'esprit de science et de puissance, et l'esprit de ceux qui se sont endormis dans la justice. C'est lui qui jugera ce qui est caché, et nul ne pourra dire devant lui une parole vaine, car il a été élu devant le Seigneur des esprits, selon sa volonté.
Oui, alors je voulais ajouter que plusieurs passages d'Enoch ont été donc retrouvés à Qumran, mais pas celui-ci. D'où l'hypothèse que ce serait un texte qui est déjà chrétien, qui aurait été introduit dans le livre d'Enoch. Mais comme après, le Messie est appelé Enoch lui-même, certains ont des doutes.
Mais c'est vrai qu'il a des accents très chrétiens. Oui, absolument.
Oui, bien sûr. Alors, les savants sont partagés sur l'origine de ce texte, mais avec une majorité qui penche pour une origine pré-chrétienne. Voilà l'état de la question aujourd'hui qui peut changer demain.
Et ça, c'est la parole des savants. Et les religieux, ils en pensent quoi, les religieux juifs? Est-ce que dans le Talmud, on considère que le livre d'Enoch est un livre qui fait partie de la révélation?
Non, enfin les religieux juifs ont laissé de côté ces traditions. Justement, je posais tout à l'heure le problème du lectorat et du judaïsme de cette époque. Mais il est extrêmement divisé. Vous savez bien qu'il y a des sadducéens, des pharisiens, des esséniens, et puis d'autres encore. Il y a un mouvement baptiste, et puis il y a des mouvements très éphémères. Et après apparaissent les zélotes et les sicaires dans la lutte contre Rome. Bon, on n'est pas du tout sûr qu'ils attendaient tous la même chose. Les sadducéens, certainement, n'attendaient rien du tout. Ils vivaient dans le monde, sur cette terre, n'attendaient rien après la mort. Les pharisiens, eux, attendaient la résurrection en vue du jugement dernier. Les esséniens, est-ce qu'ils avaient une vision plutôt grecque de l'âme qui s'en va au ciel, dans les terres? Bon. Étant donné ces divisions, on ne peut pas attribuer le livre d'Enoch à un au courant ou à un autre, dire qui l'utilisait, qui le lisait. Et comme il n'a pas survécu dans l'original araméen, cela suppose que le courant majoritaire du judaïsme l'a laissé tomber. C'est pour ça qu'il a été recueilli dans l'église chrétienne.
Et en tout cas, ce qui est intéressant par rapport effectivement à l'histoire, qui va être l'histoire assez extraordinaire de cet homme nommé Jésus qui va devenir ensuite le Dieu des chrétiens, en tout cas l'incarnation du Dieu des chrétiens, lui-même en se considérant comme le Fils de l'homme, on peut penser que par exemple si ce texte existait, il pouvait se reconnaître dans ce texte, de même qu'il connaissait le livre de Daniel, donc la prophétie du Fils de l'homme. Est-ce que c'est pas une manière pour Jésus de montrer qu'il est la figure attendue qui va jouer, qui est l'envoyé de Dieu pour apporter un salut?
On peut le supposer. Il y a eu une discussion épique il y a quelques années, parce que c'est vrai que fils d'homme en hébreu signifie simplement homme.
Donc
lorsque
fils d'homme.
Jésus dit moi le fils d'homme, souvent c'est en parallèle avec je, moi. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres visions de Jésus, et puis dans la vision d'Étienne aussi, dans les Actes des Apôtres, qui nous montre ce fils d'homme sous un aspect surnaturel. Et c'est l'identification de la vision de Jésus, fils d'homme, à celle du livre de Daniel, qui suscite le scandale qui conduit à la lapidation d'Étienne, par exemple. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose. Il y avait une interprétation. Mais voilà, nous sommes en présence de plusieurs titres. Et fils d'homme ne peut être, à mon avis, utilisé que par des lettrés, des gens qui connaissent les textes, qui les comparent, etc. Mais dans le peuple qui acclame Jésus, fils d'homme, ça n'est pas tellement connu. C'est le fils de David qu'on attend. Donc les attentes, même si elles concernent le même personnage, peuvent être variées.
Oui, mais sur la symbolique, Jésus s'est bien joué là-dessus, parce que oui. lorsqu'il rentre à Jérusalem, il demande qu'on aille lui chercher un âne, il va rentrer sur un âne de manière
oui,
triomphale,
parce que ce qui fait référence à la prophétie. Parce qu'il accomplit une prophétie, voici ton roi d'Isaïe.
Et ce que je veux dire, c'est qu'au fond, Jésus oui. assume d'une certaine manière d'être oui. une... le Messie d'être... ou le Fils d'homme ou
oui. le roi attendu.
Le roi attendu. Et en même temps, je vous répondrai à ça, et en même temps, il refuse d'être un roi terrestre. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, dans, je dirais qu'une des dramaturgies que moi que je lis dans les évangiles, c'est que d'un côté, il assume cette dimension royale, messianique, etc. Et d'un autre côté, il refuse qu'on fasse de lui un roi. C'est-à-dire quelqu'un qui va recréer le royaume temporel et qui va lutter contre les Romains. Et il spiritualise, j'ai l'impression, la fonction messianique ou celle du roi attendu.
En tout cas, il refuse le titre de Messie. Il a l'air de refuser le titre de Messie, mais il ne refuse pas le titre de fils d'homme. Au contraire, il se l'attribue. Et vous avez raison, il a des attitudes qui confortent certaines prophéties. Voici ton roi. J'en ajouterai une autre qui, à mon avis, est souvent mal interprétée. Lorsqu'il chasse les marchands du temple. Les marchands du temple ne vendaient pas des petits souvenirs, ce n'est pas lourde. Hein, ils vendaient des choses qui étaient nécessaires aux sacrifices qui se faisaient à l'époque,
les colombes,
aux offrandes, etc. Ils étaient obligés de changer l'argent de gens qui venaient de très loin parce que la diaspora juive était très étendue. Mais si vous lisez les derniers versets de Zacharie, et on voit que le livre de Zacharie a eu une très grande importance à ce moment-là, vous voyez qu'il est dit « et il n'y aura pas plus de cananéens dans le temple ». Et cananéen signifie marchand dans la langue hébraïque ancienne. Et d'ailleurs, la Bible de la Pléiade traduit « il n'y aura plus de marchands dans le temple ». Donc, ça peut être aussi interprété comme un geste messianique.
Et pour revenir à la question que je posais, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que Jésus, tout en assumant cette fonction messianique, en ayant des gestes messianiques, une forme de royauté, au fond va décevoir un certain nombre de ses disciples qui attendent un Messie temporel qui va restaurer la royauté d'Israël de manière très concrète en chassant les Romains. Et finalement, il fait des miracles pour guérir les lépreux, etc. Mais il ne fait rien pour s'imposer comme un Messie temporel.
Vous savez qu'il y a eu une interprétation de Messie, de Jésus zélote. Hein,
je sais, il y a un livre.
Je ne suis pas venu pour apporter la paix, pour apporter l'épée. Enfin, je suis venu pour apporter l'épée,
la paix, mais
etc.
le glaive.
Le glaive, oui.
Le glaive, oui.
Sauf que j'y adhère pas du tout. Parce que je pense qu'elle est dit dans un autre contexte.
Oui, mais vraisemblablement.
Que les gens de rompre les liens familiaux et sociaux en disant qu'un individu qui veut. S'engager.
Non, mais je suis d'accord avec vous, il y a trop peu de fondements pour cette interprétation. Mais vous voyez que même après sa mort, puisque ceux qui ont cru en lui attendent toujours qu'il réalise ce qu'on attend du fils de David. Es-tu celui qui va restaurer le royaume d'Israël ? Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'on attendait de lui, s'il déçoit. Nous entrons dans la théologie.
Thank you.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie ce matin de Mireille Hadas-Lebel. Et nous parlons du Messie, donc avec votre très beau livre, Une histoire du Messie, chez Albin Michel, Nelly Anvard.
Oui, alors sans aller jusqu'à la, aux questions théologiques, je ne sais pas si c'en est une, mais ce que j'aimerais savoir aussi, c'est aujourd'hui, pour un juif pratiquant et croyant, qu'est-ce que ça représente le Messie ? Est-ce qu'il y a une attente encore messianique ? Soit carrément politique, c'est-à-dire l'attente d'un roi qui va venir réellement dans ce monde, ou alors est-ce que cette attente est intériorisée et que justement il y a une attente d'un messie intérieur ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie d'un croyant, d'un pratiquant de la religion juive ?
Là, vous me posez une question extrêmement difficile, parce que si je vous disais que les Juifs étaient très divisés dans l'Antiquité, je pense qu'ils le sont encore plus aujourd'hui. Et il y a les pratiquants, alors les pratiquants sont déjà un nombre, je dirais pas infime, mais enfin un petit nombre par rapport à l'ensemble. Ces pratiquants récitent leurs prières. Dans leurs prières, dans la liturgie, ils trouvent très fréquemment le Messie. Oui, mais ces mêmes pratiquants s'adonnent à l'étude et considèrent que l'étude est la chose la plus importante, que c'est même plus important que la prière, qu'il faut étudier le Talmud notamment. Or, dans le Talmud, qui a été rédigé, compilé après le début de l'ère chrétienne, eh bien, dans la première couche du Talmud, ils ne trouvent pas du tout le Messie. Parce que cette première couche a été rédigée à un moment de nouvelles déceptions, d'attentes messianiques, une nouvelle révolte contre Rome et la volonté de faire taire toute attente eschatologique de délivrance. Faire patienter les gens en leur disant « observez les commandements et vous aurez droit au monde futur. Qu'est-ce que le monde futur ? On n'en sait rien, mais voilà, prenez patience. » Donc voilà ce qui est l'explication de cette chose étonnante, c'est qu'après tant de tribulations, on a un livre qui est presque juridique, je dirais. Comment accomplir au mieux les commandements divins. Après ça, viennent des commentaires, le Talmud, ce qu'on appelle la Gemara, et un juif pratiquant l'étudie. Et il étudie, quand il fait très bien les choses, une page par jour, avec tous les commentaires, etc. C'est énorme, ça remplit un rayon de bibliothèque. Dans ce rayon de bibliothèque, il va trouver 5 pages dans un traité où on ne l'attend pas du tout, le traité Sanhédrin, donc sur la justice, sur le Messie. Dans ces 5 pages sur le Messie, il va trouver les opinions les plus variées, hein, qui sont données pêle-mêle de rabbins qui discutent à travers les âges, dont les uns, d'ailleurs, ils ne discutent même pas tellement de la figure du Messie, qu'est-ce qu'il sera, quand viendra-t-il ? C'est ça qui les intéresse, parce qu'on est toujours dans une période de détresse, on se demande quand il viendra. Alors, on ne sait pas. Les uns disent qu'il viendra à l'improviste. Les autres disent qu'il ne faut pas trop calculer les temps, parce qu'on avait fait des calculs mystiques pour dire qu'il viendra à telle époque, parce que si après ça ne se réalise pas, on ne croira plus à rien du tout.
C'est le côté pragmatique.
Les autres disent, si tu as un plan PLANT en main, va d'abord planter ton... Et quand on te dit que le Messie est arrivé, va d'abord planter ton arbre et après va voir s'il est bien là. Donc, vous voyez, il y a une sorte de scepticisme et en même temps d'attente, parce et que oui, tout le monde se...
Parce qu'il y a eu dans l'histoire des phénomènes messianiques avec des gens qui se sont prétendus être le Messie, oui, ou qu'on a reconnu comme le Messie, qui ont soulevé des foules.
Mais ça, c'était après le Talmud. Donc déjà, oui, dans le Talmud, oui, vous voyez, et puis certains disent le Messie sera là, ce ne sera pas un Messie personnel, lorsque Israël, c'est-à-dire le peuple juif, cessera d'être asservi aux autres peuples. Donc, cette variété laisse les gens absolument perplexes. En Babylonie, les gens ne savent plus très bien, donc ils commentent aussi, et chacun dit que c'est son maître qui est le Messie. Bon, c'est une forme d'honneur qu'on attribue comme cela au maître. Alors, quelqu'un qui étudie de nos jours, voilà, se trouve devant une image tout à fait fuyante du Messie. On doit l'attendre, mais on ne sait pas pour quand. Les prières en sont remplies. Alors, pour certains, ce sont des formules vagues qu'on répète sans trop y croire, peut-être même pour certains, sans les comprendre foncièrement. Et il y a de petits groupes messianiques, comme par exemple les Lubavitch, qui croient véritablement au Messie, qui veulent faire arriver le Messie, qui disent même que leur maître, le Rabbi Schneerson, est le Messie et qu'il reviendra. Voilà, on est totalement perplexe. Mais dans le passé, il y a eu, à travers les siècles, je parle de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, des personnages qui se sont présentés comme des messies ou qui ont été pris pour le messie, qui ont entraîné des enthousiasmes qu'on n'imagine pas de nos jours. Si vous prenez le cas le plus célèbre, celui de Sabbatai Zvi, oui, qui... après les terribles massacres qui avaient eu lieu en Ukraine, en Pologne, de la part des Cosaques, a été vu comme une figure salvatrice par celui qui s'est voulu son prophète, un certain Nathan de Gaza. Lui-même vivait dans l'Empire turc. Et le bruit a couru qu'il était le Messie. Il était beau, il avait de la prestance, de l'éloquence. Et du Maroc jusqu'à Hambourg, les gens se sont préparés, ont fait leur bagage pour revenir à Sion, donc à Jérusalem, sous la houlette du Messie. Le salut était arrivé, on allait entrer dans une ère nouvelle, le monde allait changer. Donc vous voyez,
Comment ça s'est terminé?
Ça s'est terminé très mal, puisque menacé par le sultan, qui voyait qu'il créait de l'agitation, le Sabbatai Zvi a accepté de se convertir à l'islam, et certains de ses disciples se sont convertis à l'islam avec lui, mais parce que ça partait aussi d'une idée qui se trouve dans le Talmud, mais très fugitivement, à savoir que pour le Messie arrive, il faut que les choses aillent, que les hommes se perfectionnent, deviennent de véritables saints, donc des ascètes suivent cette voie, ou bien alors qu'ils touchent le fond de la perversité, et cette conversion convainquait qu'on avait vraiment touché le fond. Et cette secte a perduré jusqu'au milieu du XXe siècle en Turquie. Donc on a vu les choses les plus extravagantes autour de l'histoire du Messie. Ça a permis d'entretenir un espoir quand il n'y en avait pas trop à l'horizon.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a eu, vous disiez tout à l'heure dans le traité du Sanhédrin du Talmud, qu'il y a une manière de concevoir le Messie comme la libération d'Israël de l'oppression des nations. Et est-ce qu'on pourrait pas dire que le sionisme comme mouvement laïque, politique, de créer un État juif, est une forme laïcisée finalement du messianisme?
Oui, mais vraiment très laïcisée, parce que ceux qui ont développé l'idée sioniste au XIXe siècle, mis à part deux rabbins connus, étaient des gens qui étaient totalement laïcs. Le premier étant Théodore Herzl, qui alors ne connaissait rien à la religion juive. Donc c'est une forme de libération, mais quand on utilise le terme messianique, vous savez qu'on l'utilise maintenant de manière très très vague. On a pu dire que le communisme avait un élément messianique. Pierre Larousse, dans son fameux dictionnaire, dit que la révolution était messianique. Donc j'ai voulu, je le dis dans mon introduction, un petit peu réagir contre l'abus de terme. Est-ce qu'il existe des messianismes sans messie? Donc, en essayant d'être très rigoureux, je dirais que tout texte messianique devrait comporter un messie, mais je me rends bien compte que l'usage va tout à fait contre ce que je dis.
Eh bien, merci beaucoup, Mireille Hadas-Lebel. C'était un plaisir de vous recevoir.
Merci.
Je rappelle votre livre passionnant, Une histoire du Messie, qui vient d'être publié aux éditions Albin Michel.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous parlerons de mystique et politique à travers le parcours singulier de Jean Jaurès, avec Sophie Viguier-Vincent et Éric Vincent. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.